J'ai réfléchi totalement ce qui
s'est passé. Moi, j'ai essayé de vous remercier au personnage. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, même si je suis de mes ans, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour, bienvenue dans votre espace d'échange et de partage sur les grandes questions d'actualité. Parole aux auditeurs. Comme promis, l'émission de ce mardi 8 juin est l'une de nos émissions consacrées à la célébration des 50 ans d'accession de la RDC à la souveraineté nationale et internationale. Parole aux auditeurs s'intéresse aux perspectives d'avenir dans les secteurs clés de la vie nationale. Nous parlons éducation avec vous aujourd'hui car pendant 50 ans et bien avant l'accession du pays à l'indépendance, ce secteur a existé et a connu une grande évolution. Quelle appréciation faites-vous du système éducatif que nous avons? Pensez-vous qu'il est adapté à un cycle peut-être gardé tel qu'il est? Au contraire, si vous pensez qu'il faudrait le revoir et l'adapter aux réalités du monde actuel et le rendre plus compétitif, vos points de vue et réactions sont les bienvenus dans cette émission. Une seule question principale pour l'échange du jour, bien sûr. Quel système éducatif faudrait-il mettre en place en RDC 50 ans après? Parole aux auditeurs, reçoit dans ce studio Monsieur le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Maguère Mangoupamba. Et n'oubliez pas que nous aurons aussi au téléphone dans la deuxième partie de l'émission une intervention du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, le professeur Macha Komamba. Toute l'équipe vous tient compagnie aujourd'hui. Marie-Chantal Lumba, Titi Mpoutou à la production, Nicole Ngata est à la supervision, Alain Goy assure la mise en onde, Pierrot et la mise devant le micro. Fidèles auditeurs, bienvenue à vous.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs. Composez le 081-99-77-800 par internet en écrivant à pa@radiocapi.net.
Bonjour à tous, on se retrouve avec vous pour parler perspectives d'avenir comme on l'a fait le mardi passé avec le secteur de la santé. Nous n'allons pas plus revenir sur le bilan de 50 ans du système éducatif, mais nous allons plus apporter des propositions dans cette émission. S'il faudrait améliorer, que faudrait-il faire? Vous qui voudrez bien intervenir pour nous appeler au 081-890-6315, préparez déjà vos propositions par rapport aux années qui vont venir après la célébration des 50 ans. Que faudrait qu'il faire dans le secteur éducatif pour l'améliorer, pour l'adapter? Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue au studio des Radio Capi.
Bonjour, bonjour Radio Capi.
Nous vous disons d'avance merci pour votre disponibilité malgré que vous êtes enrhumé, la grippe, je me rends compte là qu'elle est en train de vous déranger, mais dis-moi, vous êtes forcé à venir pour vous retrouver avec les auditeurs. Nous vous disons vraiment merci. C'est vous pour cette disponibilité. Chaque fois qu'on a besoin de vous.
Oui, j'aime bien Radio Capi. Je sais que avec vous, on obtient un bon résultat. On est en contact avec beaucoup de vos auditeurs. Donc, c'est une obligation pour nous de répondre chaque fois quand vous invitez. Nous sommes obligés de venir.
Voilà. La première question, c'est d'une manière brève. Comment appréciez-vous le système éducatif congolais tel qu'il a évolué pendant 50 ans? Parce qu'avant de parler, bien sûr, des prévisions, avec vous, on va juste avoir d'une manière brève votre appréciation du travail abattu pendant 50 ans dans le secteur de l'éducation.
Oui, le système de l'éducation a connu plusieurs étapes. Je peux vous dire en peu de mots que d'abord c'était l'école traditionnelle qui a vécu dans les années 1878 quand les premiers missionnaires protestants sont arrivés dans le Bas-Congo. Et après, à partir de cette époque-là, de 78 jusque dans les années 60, on a eu l'avènement de l'école plus ou moins occidentale. Hein, qui a remplacé l'école traditionnelle que nous avions dans le temps. Et vient la troisième étape des années de l'accession de notre pays jusque dans les années 64. C'était la période de l'école post-coloniale. Et à partir de 64 jusqu'à ces jours, nous avons un quatrième moment de notre système éducatif. Et le système éducatif a connu plusieurs périodes. Quand nous avons eu avant la colonisation, dans les années avant les années 60, il y avait d'abord au niveau du colonisateur les besoins du colonisateur étaient de s'assurer de la docilité et de la soumission du peuple colonisé. Et il fallait donc former des auxiliaires autochtones, agents de collaboration pour la gestion même de la colonie. Ce qui fait que nous avons eu comme conséquence un système éducatif qui est hérité de la colonisation, qui était dominé par un programme scolaire dosé, qui écartait toute préoccupation relative à l'émancipation du Congolais, en les préparant davantage à l'obligation de beaucoup plus servir. Et quand nous avons accédé à l'indépendance, il fallait qu'on change. C'est ainsi que dans les années 61, on va prendre un certain nombre de mesures. Et ces mesures ont fait que, bon, on ait un grand nombre de Congolais formés. Vous vous souvenez que quand nous avons eu les dépenses, nous n'avions que 4 ou 5 universitaires. Donc il fallait que ça change. Et maintenant, nous entrons dans la phase de la reconstruction. Ce qui fait que nous devons vraiment changer notre système éducatif pour que nous formions des hommes et des femmes capables de reprendre la reconstruction, le développement de la République démocratique du Congo.
Salut, finalement, on se rend compte que la réforme doit tenir compte des besoins réels du pays pour qu'on puisse avancer.
Bien sûr, il faut tenir compte des besoins réels du pays aujourd'hui. Nous devons, l'éducation doit répondre aux préoccupations de la communauté nationale.
Voilà, on va en venir à vous. Kyulu, vous êtes à Kinshasa, Kinshasa, Wisney est à Kananga. Vous allez donner aussi votre contribution, c'est par rapport aux perspectives d'avenir. Que faudrait-il faire aujourd'hui pour réformer, améliorer le système de l'éducation dans notre pays, 50 ans après? On en parle avec vous.
Parole aux auditeurs.
Kyulu, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Pierrot, je dis bonjour à M. le ministre et ma soeur, à qui je profite de l'occasion de souhaiter une bonne guérison déjà. Pendant les perspectives de l'éducation de notre pays, vraiment, étant que Congolais, j'aimerais proposer à ce que prochainement, commençant d'abord par l'école primaire, qu'on puisse vraiment payer, qu'il y ait une très bonne paiement de ces enseignants-là, parce que c'est eux qui nous forment et nous cadrent des damas. Vous voyez, aujourd'hui, ces enfants-là souffrent comment? Dans les bases, de toute façon, ils n'arrivent même plus à bien étudier. Pourquoi quand ils arrivent à l'école, il y a de ces enseignants-là qui leur dérangent, qui leur demandent de l'argent. Donc vraiment, ce n'est pas quelque chose à encourager. Quelque chose qu'il faut qu'on évalue dans notre éducation. Concernant même cette école primaire-là, vous voyez, il y a des enfants qui viennent à la maison sans manger, qui n'ont rien mangé, qui, prochainement ou dans l'avenir, qu'on puisse insérer, n'est-ce que le système de donner à ces enfants-là des fruits, donc ils puissent être bien servis. Donc, ça, c'est pour l'école primaire. Et comme le ministre Machako n'est pas avec nous aujourd'hui,
non, je mérite seulement pour... Kyulu, il va intervenir dans la deuxième partie de l'émission. On donnera aussi son point de vue par rapport à ces sujets.
D'accord, Kyulu. D'accord. Bon, pour le code de c'est bien pour les systèmes que le ministre a autorisé, que les enfants puissent entrer avec les calculatrices. C'est bien, mais... Ça va pas l'air prochainement qu'on puisse vraiment enlever ça parce que ça, les élèves sera plus mûr pour faire les calculs mentaux comme nous l'avons dit l'autre fois. Mais Bureau, j'aimerais que vous puissiez retenir cette question que je pose au ministre Machako.
Allez-y, rapidement, je vais noter.
Il n'y aura pas moyen que, dans l'avenir, qu'on puisse avoir un système là, que les étudiants qui ont terminé la première session puissent attendre celle de la première session, qu'on puisse les réunir, seulement qu'ils puissent faire, qu'ils puissent avoir une telle collation.
Voilà, merci Kyulu, vous êtes ici à Kinshasa, toutes les préoccupations sont bien retenues. Vous pensez qu'il faut améliorer les conditions de travail des enseignants, parce qu'il y a des enfants qui arrivent affamés à l'école, si on pouvait installer une sorte forme de cafétéria dans les écoles. Mais vous avez posé une question au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, on pourra la lui poser dès qu'il sera en ligne la deuxième partie de l'émission. Nous allons à Kanango, Kassai Occidental. Wisney, bonjour. Wisney, vous êtes en ligne, bonjour.
À remercier la radio Capi.
Allez-y, on vous écoute.
Ce n'est pas Wisney, c'est Wisney Peter Luboya, à Kananga.
Peter Luboya, oui, on vous écoute alors.
Oui, si je mets mon bilan en pratique, je trouve que depuis l'existence de l'éducation jusqu'à présent, le bilan peut sembler négatif. Pourquoi j'ai dit ça? La fois passée, lorsque j'ai dû intervenir dans notre émission Parole aux Militaires, sur le sujet qui était maintenu concernant la décision prise par le ministre national de l'Éducation pour l'utilisation des calculatrices dans les centres des examens d'État, je me suis présenté en tant qu'un professeur qui, jusque-là, a analysé et a fait même des preuves sur les niveaux intellectuels des enfants qui se manifestent négatifs.
Oui, Wisney, revenons d'abord, vous êtes enseignant, n'est-ce pas?
Allô?
Vous êtes enseignant, Wisney?
Oui.
Vous êtes enseignant, c'est ça?
Oui, oui, je suis enseignant.
Mais alors, si vous rendez compte que le niveau des enfants est négatif, c'est votre responsabilité, vous. C'est vous qui enseignez à ces enfants. Après, on se rend compte qu'ils n'ont pas un niveau aujourd'hui. Alors, le problème, c'est pas les enfants, le problème, c'est vous-même qui êtes encadré, n'est-ce pas?
Mais il y a trois grands volets à soulever. Le premier, c'est le gouvernement. Le deuxième, ce sont les parents. Et le troisième, c'est nous et où ce sont les élèves eux-mêmes.
Voilà, maintenant nous voudrions y aller parce qu'on s'est rendu compte que les choses ont marché, les choses n'ont pas marché. Mais s'il faudrait que ça marche, quelles sont vos propositions, vous, en tant qu'enseignant, s'il faudrait que ça marche, qu'est-ce que vous proposez?
D'après mon analyse, je peux lancer un défi d'abord au gouvernement. Parce que le gouvernement doit beaucoup veiller sur l'éducation de nos enfants aujourd'hui. Et si le gouvernement ne tient pas compte de toutes ces difficultés, je pense que le niveau des enfants sera toujours très bas.
Voilà, merci Wisney. Il faut que le gouvernement.
Je peux aussi dire que.
Terminer rapidement, oui.
Oui, je disais aussi que le gouvernement songe aussi à bien rémunérer les parents afin de supporter tout à fait normalement les enfants qui les ont et puis que les enfants aussi aient au moins, avant de se rendre à l'école, un petit rien à manger, puis vous voyez que le niveau essaiera de s'augmenter. Et si les enfants se présentaient dans des salles affamés, les professeurs eux-mêmes affamés et les parents qui ont absolument rien, vous voyez que le niveau ne fait que s'abaisser au lieu de s'augmenter, M. Pierrot.
Merci Wisney, vous êtes à Kananga. Oh, on nous écoute sur 93.0 MHz. Fiston, vous êtes à Wallis Kalono, qui vous bonjour.
Oui, bonjour, salut Edema.
Fiston, on vous écoute. Que faudrait-il faire aujourd'hui pour réformer, améliorer le système éducatif de la RDC 50 ans après?
Bon, écoutez, par rapport à ces situations, nous voyons à l'époque, lorsque nos anciens parents, le levier à qui ils étudiaient lorsque l'auberge était là, vous allez constater qu'il y a grande différence. Et surtout que vous allez voir le parent le papa qui a étudié depuis cette époque-là, à partir des quatrièmes des humanités. Écoutez, ils étaient vraiment, jusqu'à aujourd'hui, ils sont des grands enseignants. Et ils formaient les gens, et vous allez se retrouver, est-ce que c'est un licencié, est-ce que c'est un gradué, et que vraiment c'était bon. Aujourd'hui, je vois qu'il y a plusieurs causes qui fait en sorte que la formation des élèves, la formation des enfants ne soit pas comme il faut. Et donc, il y a d'abord le problème, la responsabilité émane du gouvernement. Et d'abord, c'est le gouvernement qui prend en charge les enseignants. Et lorsque l'enseignant il est bien payé, la corruption ne va pas se présenter. L'irrégularité à l'école ne va pas se présenter. Et donc, c'est tout ça. Et ensuite, il y a aussi la guerre. Vous savez, avec la guerre, il y a de déplacés. Je ne sais pas si, par exemple, j'ai été déplacé, je me pense quelque part, et là où il y a un peu de la sécurité, et puis je vais étudier. Peut-être là où je vais étudier, il y a des enfants là qui échappent l'année où la classe à qui il était, et puis il va se mettre dans une classe. Soit des troisièmes, il était en troisième, il lance la quatrième. Et voilà qu'il n'a pas terminé l'année à cette époque-là. Et puis, il voulait entrer dans la quatrième année. Ça sera aberrant.
Voilà,
donc, il y a la responsabilité du gouvernement.
Merci.
Et aussi, le gouvernement qui est responsable de tout ça, il doit garantir toute situation. la paix est autre. Donc, dès que le gouvernement prend en charge les fonctionnaires et surtout les enseignants, les professeurs, je veux bel et bien que ces enfants seront, n'est-ce pas, seront mûrs et seront efficaces dans le pays et dans l'avenir après 50 ans après.
Merci, voilà. Merci, on vous a suivi. Le renforcement du système, la prise en charge des enseignants et l'autorité de l'État partout. Gabriel, vous êtes à Béni, on reste au Nord Kivu. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Et on vous écoute, Gabriel. Qu'est-ce que vous proposez 50 ans après? Qu'est-ce que vous proposez pour la révision ou la réforme ou l'amélioration du système éducatif congolais?
Ok, merci, monsieur le journaliste. Je salue aussi monsieur le ministre qui est dans notre studio. J'ai connu que 50 ans après, le système éducatif congolais va à la régression. Ça, c'est connu. Je voulais donner quelques propositions.
Allez-y.
Vous savez qu'au Congo, on a de bons textes, mais le problème réside au niveau de l'application. Aujourd'hui, on peut changer le système, pas des papiers comme ça, on peut faire des bons textes, du nouveau système congolais que nous allons appliquer dans notre pays. Le problème réside au niveau des gens qui vont mettre ça en pratique, c'est-à-dire les enseignants, au niveau de l'école primaire jusqu'à l'université. Ces gens-là, aussi longtemps, ne sont pas encore pris en compte, c'est-à-dire pris vraiment en considération à notre gouvernement, pour qu'ils puissent avoir leurs moyens, mettre à leur disposition les moyens disponibles afin qu'ils puissent travailler correctement, afin que ce système-là puisse donner des bons résultats dans l'avenir. Ça sera toujours possible.
Aujourd'hui,
le ministre de l'Étude, que je salue, le professeur Machak Mam, avait eu de bonnes intentions pour le changement de l'éducation au niveau de l'université, mais il est bloqué par le gouvernement parce que les professeurs les demandent où sont nos moyens. Les moyens pour que nous puissions aussi travailler comme tu souhaites. Tu vois qu'il est toujours bloqué. C'est ça le problème, le grand problème que le gouvernement doit mettre en œuvre afin que.
Voilà, on a un problème de ligne avec Gabriel. Et vous êtes, vous avez insisté sur l'application, la mise en application des textes, même s'il faudrait réformer, mais il faut appliquer les textes. Nestor, vous êtes à Calémie, bonjour.
Bonjour, papa, bonjour à tous nos amis de Radio Capi.
Ok, on vous écoute. Que faudrait-il faire pour améliorer le système?
Moi, je vote depuis l'indépendance de notre pays. Il y a toute une baisse là de niveau de tige, du côté de niveau de tige, toute une baisse là. Ah. Moi, je vois qu'il faudrait se référer, disons, au système traditionnel par rapport au système moderne, à ce qui concerne les examens d'État. D'autres constats, c'est du côté de l'État congolais. Quand les parents créent, quand les parents supportent les enseignants, c'est ça qui fait aussi que, comment dirais-je, c'est ça qui fait aussi le niveau d'études des enfants puisse baisser.
Voilà. Ok. Nestor, vous avez proposé des choses pour l'examen d'État. Vous souhaitez que ce soit les systèmes traditionnels et vous demandez à l'État de prendre en charge les enseignants plutôt que les parents puissent les prendre en charge. Le dernier auditeur de la série, c'est Mabanza. Vous êtes ici à Kinshasa. Vous êtes enseignant. Je ne sais pas si vous connaissez votre nom. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
J'ai bien prononcé votre nom. C'est Mabanza.
C'est Mabanza.
Voilà, merci. Vous êtes enseignant, à partir de ce que vous vivez, ce que vous avez fait, ce que vous faites comme travail, quelles sont vos propositions pour améliorer le système éducatif 50 ans après?
Oui, merci beaucoup. Je vous dis que monsieur, le constat est très amer, parce que je me dis, si l'État congolais n'arrive pas à prendre la chose à la main, dans notre pays, nous aurons à importer les gens pour gouverner ce pays. Monsieur, je vous dis ceci parce que ce qui se passe, un enseignant affamé, un enseignant qui est enveloppé par la misère, un enseignant qui manque même à manger, un enseignant qui passe la nuit à la belle étoile. Vous y pensez, il peut donner quoi à un élève ou à un étudiant? L'enseignant congolais sait subir des misérables par rapport à son collègue africain. L'enseignant congolais, il est clochardisé. Nous demandons à l'État congolais qu'il puisse révaloriser la fonction enseignante, que l'enseignant touche très bien son salaire, que l'enseignant soit humanisé. Et on peut parler vraiment de l'enseignement au Congo. Au jour d'aujourd'hui, tout ce que nous faisons, ce sont des formalités, des fiascos. En soi, il n'y a rien, il n'y a rien. Même à l'université, même au secondaire que je suis, le constat est très amer.
Voilà, ma base à pour vous résumer.
L'indépendance.
Ok, ma base à pour vous résumer, l'essentiel pour vous, c'est l'amélioration des conditions de vie des enseignants.
Oh,
ce qui va,
oui.
Voilà, ce qui va s'améliorer. Merci, on revient à vous, monsieur le ministre, vous avez suivi les auditeurs. Moi, j'ai une question que je pourrais aussi vous poser, mais en attendant que vous puissiez répondre aux préoccupations de quelques auditeurs, ils ont proposé, mais plus ils reviennent sur l'amélioration des conditions de vie des enseignants.
Oui, excusez-moi, merci beaucoup. Presque tous, hein, tous les six intervenants que vous avez eus reviennent sur les conditions de vie des enseignants. C'est vrai que c'est une. Ils ont raison. Ils ont raison que les conditions de vie des enseignants aujourd'hui ne sont pas très bonnes. Bon, le gouvernement est en train de tout faire pour qu'on arrive à résoudre ce problème. Mais j'aimerais quand même mettre l'accent sur une chose. C'est qu'aujourd'hui, tant que nous n'avons pas encore changé notre philosophie, la motivation de l'enseignement, la motivation de l'éducation, nous pourrons donner de très bons salaires aux enseignants, mais nous n'allons pas atteindre l'objectif qui est de mettre des hommes et des femmes capables de développer, de reconstruire le pays. Donc, il faudrait que nous arrivions à circonscrire tout ce que nous avons à faire dans les secteurs, dans un cadre bien déterminé, et dans ce cadre, on met aussi l'accent sur les conditions des enseignants. C'est ainsi que nous avons élaboré une stratégie. Il y a une stratégie, beaucoup de gens, je vois notre camarade Gabriel de Denis qui ne croit pas, qui dit que bon, nous avons toujours de bons textes, mais qui ne sont pas appliqués. Non, je crois qu'il ne peut pas être si pessimiste. Il y a beaucoup de textes que nous prenons et la situation est quand même en train de changer. Il faut qu'il regarde à côté de lui et se rendra compte que la situation est en train de changer. Hein? Je prends donc au niveau de cette stratégie, nous avons mis l'accent sur. Quand nous examinons notre système éducatif, alors nous avons adopté une stratégie qui met l'accent sur trois axes vraiment importants. Le premier objectif que nous recherchons, c'est que nous l'avons toujours dit, il faut que les enfants congolais, tous les enfants congolais deviennent des élèves. Il faudrait que nous arrivions à niveler le socle minimum des connaissances des Congolais.
Il faut
que les enfants aillent à l'école et que ces enfants étudient tous dans des conditions pour nous permettre de niveler les niveaux minimums de tous les Congolais. Qu'on dise au moins chaque Congolais sait lire, chaque Congolais sait écrire, chaque Congolais sait calculer.
C'est la première chose que nous
nous sommes assignés comme objectif. Et la deuxième chose, c'est que nous devons améliorer, je le dis, nous devons améliorer la qualité de notre enseignement. C'est vrai. Mais il faut que nous formions des gens en appliquant, en mettant l'accent par exemple sur l'enseignement technique. Il faudrait que nous formions des gens qui sachent comment reconstruire, comment développer le pays. Je vous ai dit que dans les années 60, on mettait beaucoup plus l'accent sur la docilité du Congolais. Il fallait former des auxiliaires, les colonisateurs cherchaient des auxiliaires. Enfin, des gens qui devaient respecter les Mundélés. Maintenant, nous ne pouvons plus continuer comme ça. Nous devons faire de sorte que le Congolais, en quittant l'école, soit à mesure lui-même de se poser des questions sur son environnement.
Voilà.
Et qu'il cherche comment améliorer cet environnement.
Mais cela conduit directement à la révision même de notre programme, à la révision des matières pour savoir telle section, qu'est-ce qu'on doit apprendre par rapport aux problèmes réels qui se posent dans le pays.
C'est une suite logique. Je vous ai dit que j'étais en train de vous donner ces différentes stratégies, ces différents éléments de la stratégie. Et le troisième élément important, c'est la gouvernance. Nous entrons maintenant dans la phase de la décentralisation. Quelle est la place de l'école vis-à-vis, par exemple, du gouvernement provincial? Quelle est la place de l'école vis-à-vis du gouvernement national? Alors, il faut que les rôles soient bien claire pour qu'il n'y ait pas de confusion afin que l'école vraiment revienne et reprenne sa place, la place qu'il faut et qu'il remplisse sa mission. Et à côté de cette stratégie, nous avons directement une loi. La nouvelle loi que nous allons qui est encore en discussion au niveau du Parlement met un accent tout particulier sur les conditions sociales des enseignants. Et là, nous avons demandé, c'est la première fois, nous demandons un statut particulier de l'enseignant. Et je crois que si ça passe, nous allons directement mettre à la disposition du gouvernement et du Parlement un statut particulier de l'enseignant. Quel est le statut de l'enseignant? Aujourd'hui, tantôt, il est comme fonctionnaire, c'est quelqu'un qui dépend de la fonction publique. On ne sait pas exactement. Il faudrait qu'on définisse clairement le statut
de l'enseignant. Mais le contexte, cela est aussi lié au budget qu'il faudrait allouer au secteur de l'enseignement. Tel qu'il se présente aujourd'hui, je ne crois pas qu'il puisse permettre, même si l'enseignant a un statut spécial, mais aussi longtemps que le budget alloué est inférieur, je crois bien, à 10%, il ne peut pas permettre d'améliorer. Est-ce que vous prévoyez dans cette stratégie aussi la révision du budget alloué au secteur de l'enseignement?
J'étais en train de vous expliquer. Je vous ai dit, vous pouvez donner suffisamment de moyens, même vous là. Si vous avez beaucoup d'argent, vous n'avez pas un plan pour utiliser cet argent, vous allez utiliser l'argent vaille que vaille, et après vous allez regretter parce que vous n'aurez rien fait. Il faut d'abord commencer par poser les jalons. Donc vous dites, qu'est-ce que je veux faire dès que j'ai le moyen? Après, maintenant, on recourt au gouvernement, et là, je crois que nous avons demandé, nous continuons à demander pour qu'on augmente le budget réservé à l'éducation jusqu'à 15%, le minimum qu'on peut avoir. Ça pourra nous permettre de remplir quand même un certain nombre de choses, de remplir quand même les attentes des enseignants. Voilà un peu ce que je peux vous dire en ce qui concerne les cantines scolaires, tel que demandé par M. Kuhl ou des Kinshasa. Il a posé le problème des calculatrices. Moi, je me dis, mais aujourd'hui, dans les écoles, les enfants travaillent avec les calculatrices. On n'a pas exclu que les calculs mentaux peuvent se faire. On peut continuer toujours à utiliser les calculs mentaux comme on le fait. Mais à l'école, l'enfant utilise la calculatrice, surtout quand il arrive en sixième des humanités. Ce n'est pas logique que, après, on lui dise, non, tu gardes la calculatrice.
Il ne peut pas utiliser l'examen d'État.
Nous avons dit, bon, on compose l'examen en tenant compte de cet élément. Mais bien sûr, on va faire une évaluation après la passation de cette année, on fera une évaluation, on dira si on peut continuer ou pas. Donc, mais nous avons trouvé que c'était quand même logique, c'était illogique plutôt, qu'on refuse l'utilisation de la calculatrice. Notre ami Louboya de Kananga, bon, il dit le bilan est négatif. Bon, il peut voir ça comme il veut. Moi, je crois que nous avons aujourd'hui beaucoup de gens qui ont étudié au Congo. Nous avons là beaucoup de médecins qui se sont expatriés, qui sont en dehors de nos frontières, qui font la fierté nationale, même s'ils ont quitté le Congo, mais ils ont tous suivi toute leur formation ici au Congo. Donc, le bilan est négatif, c'est vrai, mais nous avons produit des gens, des hommes et des femmes capables et qui se défendent à travers l'humanité.
Voilà. Avant de prendre Blanchard qui est en Bandakar, parce qu'il y a un auditeur qui l'a dit, c'est une question que je vous pose, monsieur le ministre, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans la stratégie pour éviter cette cassure entre les besoins réels que nous avons, parce que vous allez voir aujourd'hui que le jeune qui termine l'école secondaire, ils ont tendance à s'orienter vers à l'université, à la médecine, on fait les droits. C'est-à-dire que la fonction enseignante a tendance à être aujourd'hui négligée. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour casser, pour éviter cette cassure-là, qu'on se rende davantage, qu'on va former beaucoup de gens dans d'autres domaines et que l'enseignement qui est la base ne puisse pas se faire beaucoup de personnes, parce qu'on se rend compte qu'il y a des à l'IFP aujourd'hui, vous rendrez compte que les étudiants diminuent. Il y a par exemple à l'IFP Kananga, on nous dit qu'il y a beaucoup d'encadreurs et moins d'enseignants, et tout de suite on aura beaucoup de gens qui auront fini l'ISTEM, la médecine, l'informatique, et de plus en plus moins d'enseignants. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans la stratégie pour révaloriser et éviter cette cassure?
Ça, c'est un phénomène mondial, ce n'est pas seulement lié à la République démocratique du Congo. Quand vous visitez, moi j'ai fait beaucoup de réunions à travers le monde, j'assiste à ces problèmes et tous les ministres que nous avons se plaignent de ces problèmes. Donc là, beaucoup de gens ne font plus ces options psychologiques, la faculté dite les sciences humaines. Très peu de gens le font. Beaucoup de gens veulent s'orienter, bon, bien que ce soit aussi les sciences humaines, veulent s'orienter vers les droits, les facultés de droit, les facultés d'économie, et oublient tout ce qui est pédagogie, psychologie. Il faudrait qu'à un certain moment, effectivement, au niveau supérieur, que le gouvernement prenne des dispositions pour rendre attrayant ces différentes options, parce que nous avons besoin des gens, il faut former les gens qui doivent être en mesure de prendre, comme je l'ai dit souvent, la relève du Congolais. Voilà. Et c'est la réponse, c'est aussi les statuts particuliers, comme je l'ai dit, les statuts particuliers que nous voulons donner à l'enseignant. Donc nous, il faut que, une fois que la loi passe, nous allons mettre à la disposition aussi du Parlement les statuts particuliers. Et si ça passe, je crois qu'on prendra des mesures pour que ça puisse permettre à l'enseignant de se défiler comme il faut.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ca@radiookapi.net.
Le secteur de l'éducation est dans parole aux auditeurs. Les perspectives d'avenir, 50 ans après, que faudrait-il faire pour améliorer le système de l'éducation de la RDC? Faudrait-il le garder tel qu'il est? Faudrait-il l'adapter aux réalités? Faudrait-il rendre compétitif toutes les préoccupations que vous avez par rapport à cela, 50 ans après? Et appelez-nous pour donner vos propositions, surtout en ce qui concerne les perspectives d'avenir. Qu'est-ce que vous proposez pour améliorer le secteur de l'éducatif de la RDC? Appelez-nous au 081. 1-890-63-15. Il y a Blanchard qui est en Mandaka, Béni qui est ici à Kinshasa. Blanchard, bonjour.
Oui, bonjour, Pierre Lamèche.
Blanchard, on vous écoute. Vous avez suivi les premiers auditeurs, vous avez suivi le ministre. Qu'est-ce que vous proposez pour qu'on puisse améliorer le secteur de l'éducation?
Oui, ce que je propose au gouvernement congolais pour pouvoir améliorer le système éducatif congolais, je vais demander au gouvernement congolais de confier la responsabilité du système éducatif aux prêtres, donc aux abbés, parce qu'avec les enseignants actuels, ils ne sont pas qualifiés, ils ne donnent pas vraiment de bons enseignements aux élèves, on ne sait pas pourquoi. Peut-être ils ont été là pour des raisons politique, je ne sais pas.
Je demande
au gouvernement congolais de confier tout simplement ce système éducatif aux prêtres.
Ok, Blanchard, vous proposez
à l'Église catholique.
Voilà, vous proposez que les prêtres gèrent les écoles, les systèmes, ou que les prêtres deviennent les enseignants partout qu'on est des enseignants prêtres. Qu'est-ce que vous proposez juste qu'on confie la gestion aux prêtres, ou qu'il y ait et les prêtres qui gèrent et les prêtres qui sont les enseignants?
Oui, qu'on donne tous les secteurs de l'éducation congolaise aux prêtres, que les prêtres deviennent même les enseignants, même les gestionnaires. C'est ça ma contribution.
Merci Blanchard. Béni, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Bonjour M. Kiroen.
On vous écoute, Béni. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour améliorer? Vous avez suivi les uns et les autres. Quelle est votre contribution?
Certainement, c'est comme le professeur vient de le dire, il y a quelque chose qui cloche sur l'éducation en République démocratique du Congo. Surtout, ce qui pose problème là où on va blesser, sur le Didier. D'ailleurs, j'ai suivi un intervenant qui est en train de dire qu'on avait alloué le Didier de 10%. Ce n'est pas vrai, c'est aux alentours de 3%. Et si même de regarder au fur de temps, dans les années 70, quel Didier a été loué pour l'enseignement, pour l'éducation? Et aujourd'hui, nous sommes à quel niveau? Et aujourd'hui, je trouve comme si on veut une chose de son contraire. Vous voulez que l'éducation soit améliorée. Alors que les enseignants ne sont même pas bien payés. Et si vous avez suivi, hier ou avant-hier, où le fonctionnaire est en train de marcher pour l'application du barème de Ngozi. Et est-ce qu'il est en application? Et alors qu'ils sont mal payés, vous voulez qu'ils puissent donner du bon résultat? Est-ce que c'est possible ça? Ça est, l'enseignant touche 45 francs. Entre temps, il a des enfants. Il a des enfants qui sont malades, qui sont aussi à l'école. On demande 30 000 francs. Est-ce que c'est possible? Aujourd'hui, on cherche à éliminer le phénomène Koulouna. Mais c'est Koulouna, ce sont des enfants qui ne sont pas en mesure d'aller à l'école. Et parfois, ils sont très intelligents, ces petits qui sont sur le poste et autre chose. Mais juste parce que les parents n'ont pas de moyens, ils se trouvent dehors, et qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et il y a même des sensibilités qui ont dit, quand on n'a pas de l'argent, on ne peut pas pratiquer toutes les vertus. Que voulez-vous que ces enfants fassent?
Voilà,
si
merci. Manque
d'argent, son enfant est malade,
merci,
il arrive
Béni
à l'école, on lui donne de l'argent pour que...
Voilà, merci Béni. Pour vous résumer, Béni, vous demandez qu'on puisse revoir les budgets alloués au secteur de l'enseignement et qu'ils puissent répondre aux besoins réels des enseignants. Nous rentrons au Kasaï occidental. Pierre, vous êtes en ligne, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, Thierry Lemay, je suis à Canada et je salue le ministre en passant.
On vous écoute, qu'est-ce que sont vos propositions?
Je ne ferai pas faire une litanie inutile des phrases, mais je voudrais d'abord proposer que le système éducatif soit d'abord informatisé pour le finaliste à l'examen, surtout le système d'examen d'État. Quand on livre tout d'abord le journal, c'est insuffisant. Il faut que cela s'accompagne les diplômes directement. Comprenez s'il vous plaît, mon cher bureau. Moi, depuis 2016, je n'ai même pas mon diplôme. Alors que bientôt, je termine ma licence. Je n'ai même pas le diplôme. J'ai le journal. Et vous comprenez que ce système, c'est un peu, c'est dérisoire. C'est le système dans le secteur éducatif. Là, on doit instaurer la tolérance zéro. Pour mettre fin dans une sorte de conviction. Que le président aussi pense là. Que tout le monde prenne tout ça en charge. Vous voilà. Verrez qu'il y a la corruption partout. Et les enseignants, les assistants, les assistants aujourd'hui qu'on n'en parle pas, ça fait honte.
Ok. Pierre, pour vous résumer, vous demandez l'informatisation du système pour les examens d'État et la lutte contre la corruption. Et qu'on vous livre le diplôme rapidement, dès que les gens terminent, ils ont déjà leur diplôme. C'est ça, là, en bref, ce que vous avez dit. Merci. Vous êtes à Kananga, au Kasaï occidental. Nous allons lire aussi quelques mails que nous avons. Il y a Bwana Masolo Boyoma de Kami a dit ceci. La RDC a un bon système éducatif. Il faut seulement l'adapter à la nouvelle technologie de l'information. Cela veut dire privilégier l'informatique sans oublier la motivation du personnel. Car sans motivation, rien ne peut changer. Benny Kamala, qui venait de s'expliquer tout de suite, l'a demandé qu'on puisse renforcer le budget alloué au secteur de l'enseignement. Ingénieur Benny Kamala, c'est lui-même d'ailleurs qui était déjà sur les antennes. Et Mumbere Mbakula du Nord qui vous dit ceci, quel que soit le système d'éducation à RDC, l'essentiel est de créer l'emploi à ceux qui terminent les études. On termine avec Kakuli qui est à Kalemi avant de redonner la parole à notre invité. Kakuli, bonjour.
Bonjour, Pierre et la Mégie.
On vous écoute. Quelles sont vos propositions?
Ok, ma proposition, je crois, elle est déjà dite par les autres. Par cela, les tiennes, je vais seulement ajouter en ce terme que le gouvernement réintègre dans ses responsabilités en payant les enseignants un salaire de fonds et régulier pouvant permettre à ce dernier de s'occuper seulement de l'enseignement au lieu de faire peut-être le darisme, donc le taxi de l'homène, que l'État se charge aussi de la construction des écoles. Puisque ce que le ministre est en train de dire là-bas, vraiment c'est avec des homocompices, il est en train de se moquer des enseignants parce qu'il dit que le gouvernement est en train de tout faire pour améliorer les conditions de vie de l'enseignant. Et pourtant, il y a au moins 3 ans, il n'y a pas l'application de budget dans notre pays. Comme le prédécesseur a dit, le fameux accord de Mbouti, qui n'a jamais été appliqué, on ne sait pas si sera appliqué, ce n'est pas au ciel ou. Bref, que le gouvernement paye l'enseignant comme il faut.
Comme il faut, et qu'il puisse construire de nouvelles écoles, c'est ça. Donc, voilà, merci Kakuli. Il faut payer l'enseignant et construire de nouvelles écoles. On va revenir à vous, monsieur le ministre, après quelques secondes.
Parole aux auditeurs.
Vous avez suivi les auditeurs. Je pense que la préoccupation par rapport à l'amélioration des conditions de vie des enseignants revient. Vous avez déjà répondu, mais il y a aussi une préoccupation dans la loi que vous avez initiée. On parlait, si nous pouvons y aller étape par étape, du système au niveau de l'école primaire. Est-ce que vous aviez proposé une réforme au niveau de l'école primaire, il fallait prolonger au lieu de 6 ans que les enfants puissent aller jusqu'à 8 ans. Pourriez-vous donner plus de précisions aux auditeurs par rapport à cela, parce que cela entre en ligne de compte effectivement de cette réforme.
Oui, j'aimerais d'abord, merci beaucoup pour la question, mais j'aimerais quand même rassurer notre ami Kakuli de Kalemi, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, je ne peux pas me moquer des enseignants. Moi-même, fils d'un enseignant, je ne peux pas me moquer des enseignants. Je crois qu'il enlève ça de sa tête. Ce que je suis en train de dire, c'est des choses qui se font et nous faisons tout pour que nous arrivions à rencontrer les préoccupations des enseignants. Et chaque jour, nous essayons de le faire, dans la mesure de nos moyens. Et j'aimerais aussi rassurer notre ami Pierre de Kananga pour lui dire que, bon, c'est vrai, il a raison pour les problèmes de diplôme d'État, mais je crois que cette année, il va avoir très bientôt, nous avons fini la rédaction du diplôme 2005, il va avoir son diplôme très très bientôt. C'est vrai que, bon, ils reviennent sur le problème des salaires des enseignants. C'est vrai, c'est un problème réel. mais je dis que ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire qu'il faut prendre les problèmes dans sa globalité. Ça, c'est clair. Il faut prendre les problèmes dans sa globalité, essayer de trouver des solutions à tous ces problèmes. Bien sûr, il faut augmenter les budgets de l'État en ce qui concerne l'éducation, non seulement pour les salaires, mais aussi pour d'autres problèmes matériels didactiques. Les enfants doivent avoir les manuels. Il faut que, les écoles. Tout ça doit se faire avec l'augmentation du budget que nous attendons de la communauté nationale. Pour revenir à votre préoccupation concernant la loi, la réforme que nous allons mettre en œuvre, une fois que le président de la République, Joseph Kabila, promulgue la loi sur l'enseignement, sur l'organisation et le fonctionnement de l'enseignement, c'est que nous introduisons une nouvelle notion, c'est la notion de l'éducation de base. La notion de l'éducation de base. Et cette éducation de base, d'après la formulation que nous avons proposée, c'est qu'elle prend en compte les 6 ans du primaire, plus les 2 ans du secondaire général. Et ça fait 8 ans. Parce que nous demandons à ce que l'enfant puisse, que l'État fasse un effort pour que et les 6 ans du primaire ainsi que les 2 ans du secondaire soient gratuits. Que l'enfant puisse avoir un continuum. L'enfant qui commence la première primaire puisse avoir la chance d'arriver en deuxième secondaire facilement. À ce moment-là, l'enfant pourra avoir 14-15 ans et nous pensons qu'à 15 ans, l'enfant garde les acquis. Parce que nous avons constaté que beaucoup de nos enfants, quand nous visitons nos communautés, nous visitons les provinces, nous constatons qu'il y a beaucoup d'enfants qui quittent la formation à 15 ans sans terminer leur... à 12 ans, sans terminer toute la formation. Et l'enfant qui finit à 12 ans, qu'est-ce qu'il garde dans sa tête? Sinon, bon, il devient...
C'est-à-dire que le système sait qu'il faut que les 2 ans soient rattachés à l'école primaire. Ou bien
oui, on crée un continuum.
Voilà.
C'est-à-dire l'enfant qui arrive en sixième. En sixième, il passe une fois qu'il termine son examen de sixième primaire. Et s'il a réussi, il passe en première année secondaire. Et puis en deuxième secondaire. Voilà. C'est ce que nous voulons faire. Et ça, nous rencontrons aussi quelqu'un qui nous a posé des problèmes sur ces enfants qui étaient persistants, qui a posé la question de Walikale. Qui a dit que, bon, parfois, il y a des enfants qui sont en troisième, et puis après, il y a
Non,
nous allons tout faire pour que nous avons institué, c'est un système qui est une direction qui existe à l'EPSP, le service de service. Nous devons donner à chaque élève un numéro matricule. Pour éviter que poursuivre les cursus de chaque élève. Et je sais que l'enfant qui a échoué dans une école X puisse aller se faire inscrire à l'école Y dans une promotion supérieure. Ça, nous prendrons des mesures pour que cela ne se fasse pas. Et je crois que dès l'année prochaine, ça sera plus ou moins impossible pour que les enfants fassent ça. Parce que nous savons que si l'enfant sait qu'il est suivi, son cursus est suivi, il va lui-même faire un effort pour s'appliquer à l'école et avoir le point qu'il faut.
Mais par rapport à l'orientation, la question des choix, quand cet enfant va jusqu'en deuxième secondaire, qu'est-ce que vous prévoyez en ce qui concerne l'orientation de l'enfant pour savoir il peut choisir quelle section c'est à son bon vouloir, ou il y a un système qui peut aider quand même à évaluer un enfant, savoir que celui-ci peut être orienté dans une telle section. Comme ça peut être une base pour lui-même quand il voudra choisir l'université.
Oui, bien sûr, vous avez raison. Donc nous avons à ce niveau-là, dès que l'enfant finit la deuxième année secondaire, on fera alors un examen d'évaluation nationale. Et entre-temps, nous allons mettre à la disposition de chaque école les orienteurs, les spécialistes de l'ESP, qui pourront suivre les enfants au niveau de la deuxième secondaire. Alors, c'est lui qui, nous disons ceci. Il ne faut pas que vous l'avez d'ailleurs dit. Il ne faut pas qu'on pense que l'enseignement est linéaire et que la fin, c'est à l'université.
Allez,
non.
Voilà.
Non. Il faut qu'à chaque étape de la vie, à chaque étape, et nous pensons que pour nous, notre premier niveau, c'est les 2 ans du secondaire.
C'est-à-dire que déjà, et donc cet enfant n'a pas la possibilité de faire autre chose, mais à ce niveau, déjà, il peut déjà la société.
Voilà ce que nous cherchons. Nous cherchons vraiment, comme je l'ai dit au début de l'émission, à donner un socle minimum de connaissances à tous les Congolais. Et l'État doit prendre toutes les mesures, nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour que cela arrive. C'est-à-dire l'enfant qui s'inscrit en première année, il ait la chance d'aller jusqu'en deuxième secondaire. À ce moment-là, avec les orientés, avec ses aptitudes aussi, il pourra s'orienter, soit vers les humanités, soit les humanités générales ou bien l'enseignement technique. Même s'il s'arrête,
à ce moment-là, il peut quand même être en mesure de faire quelque chose dans la vie.
Mais par rapport à la standardisation, parce que vous voyez, aujourd'hui, il y a un déséquilibre entre les écoles privées, les écoles publiques et les écoles qui n'ont pas assez de moyens. Déjà, vous vous rendrez compte qu'il y a des enfants qui, dans une école privée, ils ont l'occasion de toucher un ordinateur, les autres, parce qu'ils sont dans une école qui n'a pas de moyens, ils ne sont pas en mesure d'avoir de toucher un ordinateur, les autres apprennent l'anglais. Que faudrait-il faire pour créer un équilibre, plutôt qu'on ait ces enfants qui sont, celui-ci vient d'une école où il est bien avancé par rapport à l'autre, et là aussi, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer?
Non, mais vous avez raison, c'est augmenter le budget en ce qui concerne l'éducation et essayer de donner tous les moyens possibles à toutes les écoles. Mais il y a une chose, aujourd'hui, les moyens sont donnés. Très peu de parents savent que nous donnons aux différentes écoles des frais de fonctionnement. Nous leur demandons de s'impliquer dans la gestion de ces ressources. Mais nous nous rendons compte, malheureusement, que nous avons fait une évaluation, on se rend compte qu'il n'y a que 20% de parents qui savent et qui suivent les fonds, les ressources que nous donnons à toutes les écoles. Nous avons demandé, ainsi que par exemple le comité de gestion, combien de parents savent qu'il y a des comités de gestion qui fonctionnent dans les écoles, là où étudient leurs enfants. Nous demandons aux parents de s'impliquer. Voilà. Donc nous ne pourrons pas améliorer la qualité de notre enseignement sans l'implication de parents.
Et voilà, nous allons prendre Moukendi qui est ici à Kinshasa et Pierre Tirabouna après quelques secondes.
Parole aux auditeurs.
Moukendi, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Bonjour. Bonjour, monsieur le ministre.
Voilà, on vous écoute. Nous parlons de l'amélioration du système de l'éducation 50 ans après. Quelles sont vos propositions?
Je vous remercie pour ça, mais je suis très content pour ce que dit le ministre à propos de la réforme. À propos de la réforme, parce que on peut retrouver au secondaire, les enfants arrivent là-bas, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas ce à quoi ils s'attendent, et ils arrivent en deuxième. Et on dirait qu'ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire dans la vie. Alors, je pense que ce n'est pas surtout à propos de l'âge, parce qu'il y a quand même des écoles où les enfants en 6e ont 14, 15 ans. Ce n'est pas sur l'âge, mais peut-être sur le programme. Le programme à donner à ces enfants-là qui sont à l'école primaire. Je voulais un peu demander au ministre, qu'est-ce qu'il pense, comment trouve-t-il, par exemple, une section littéraire à option latin, maths, par exemple. Comme ça, l'enfant, quand il a terminé, il peut facilement soit aborder le droit, comme la plupart veulent le faire, il peut faire la médecine, il peut faire n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il a des aptitudes sur le plan dans les branches scientifiques et même littéraires. Et puis, comment trouve-t-il, par exemple, une expérience en rapport avec la réforme, la révolution culturelle de Mao Tse-Tung, par exemple. Vous voyez, les Chinois, à un moment donné, par exemple, ils sont en train d'étudier, par exemple, le matin, ils étudient, et l'après-midi, ils sont dans les ateliers. Ce qui fait qu'un enfant peut être en mesure de se réparer lui-même son tabouret, le banc sur lequel il est assis, ou de faire un tissage, ainsi de suite. Alors que ici, chez nous, nous avons des enfants, même au niveau de 5e, 6e des humanités, et ils cassent le banc, ils le jettent, ils vont chercher où s'asseoir, et puis c'est un morceau de planche, ainsi de suite.
Merci, M. Kendi. On a suivi vos propositions. Vous avez aussi posé la question au ministre par rapport à l'adaptation avec l'exemple de la Chine. Et Pierre, vous êtes à Bounia. Bonjour. Pierre, vous êtes en ligne. Bonjour. On l'a perdu. Là, on va à Matadi, au Bas-Congo. Simon, vous êtes en ligne. Bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes secrétaire provincial de Sénécat, c'est un syndicat des enseignants. Et nous parlons un peu, bien sûr, en ce qui concerne la célébration des 50 ans d'indépendance. Que faudrait-il faire aujourd'hui pour réformer le système de l'éducation? Vous êtes enseignant. Quelles sont vos propositions?
En fait, les propositions que je puisse donner, généralement, en fait, je félicite le ministre d'abord de l'enseignement pour avoir été en discussion une fois avec lui. Et j'ai aimé sa façon et puis la réflexion surtout, mais une réflexion sans moyens, franchement, ça ne vaudrait pas la peine. Il va falloir que le gouvernement congolais puisse doter au ministère de l'enseignement, parce que c'est ça l'avenir du Congo. Ce ministère, c'est un ministère très stratégique pour les données du Congo. Si les autorités ne nous disent pas qu'ils pensent pour les données du Congo, alors que le ministère qui met en place Mais les gens qui vont diriger le Congo du demain, les ingénieurs, que tous ces gens, ces ministères soient équipés d'une manière que qu'il faudrait les classifier, en tout cas c'est parmi les bas de l'échelle. Donc il faut chercher à requalifier le système éducatif congolais et pour les reprogrammer, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut élaguer, à chercher aussi à revaloriser ce système éducatif.
Parce voilà, Simon.
Et qu'est-ce qu'on constate actuellement?
Simon, si vous pouvez donner un exemple, vous dites qu'il y a des choses qu'il faudrait élaguer. Par exemple, comme quoi dans le programme, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui enlever pour remplacer par quoi?
En fait, il y a tel qu'il venait de le dire, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont inadaptées. Donc, nous, au niveau de Sinecat Bakongo, nous sommes en train de réfléchir, je crois que nous allons leur envoyer les documents, mais il y a beaucoup de choses. Je passe. Actuellement, par exemple, dans notre système éducatif, il y a, si je parle au niveau du secondaire, je prends d'abord quelques points, il y a, par exemple, la perte, nous avons des unités en place, les enseignants en place, perdent de la motivation, et puis, en perdant la motivation, qu'est-ce qui fait que l'enseignant puisse perdre la motivation et il se livre à des activités intenses d'extramoros? Donc, il est de gauche à droite au centre parce qu'il est libre.
Voilà, voilà.
Alors, il faut maintenant mettre dans le système éducatif congolais ce qu'il faut pour que l'enseignant ne s'engage pas à une activité d'extramoros. Parce que l'extramoration qui s'ensuit, c'est quoi? Il y a un vieillissement rapide des corps enseignants et puis il y a la mort aussi qui s'est précipitée.
Voilà. Simon, merci, on vous a suivi. Simon, on vous a suivi parce qu'on est déjà à la fin de l'émission. Oui, vous êtes à Goma, on vous donne la parole. Là, juste pour une minute parce qu'on a passé des temps. Oui, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
En bref, quelles sont vos propositions?
Oui, moi, pratiquement, j'ai suivi avec intérêt le débat. Mais je voudrais plutôt adresser une petite question à son excellence, monsieur le ministre,
en
primaire secondaire. Moi, j'ai suivi l'édition 2004-2005. Hein. Mais jusque-là, nous sommes en train d'attendre le diplôme. Les diplômes ne sont pas encore sortis. Pourtant, je sais que je suis maintenant presque à la fin de mes études universitaires. Or, je ne saurais pas obtenir mon diplôme de licence sans avoir déposé le diplôme d'État.
Et
là,
voilà.
Je pense que le ministre est en train de nous mettre en difficulté.
Voilà, le ministre a déjà donné la réponse au premier auditeur. Il a dit qu'il aura envie de travailler sur ça cette année. Vous aurez votre diplôme.
On va voir ça d'ici, dans un mois, il aura son diplôme.
Voilà, dans un mois, vous aurez votre diplôme. C'est question de passer à l'école.
Oui, s'il comprend que nous avons trouvé des reliquats. Et là aussi, bon, je ne me mêle pas dans un débat politique, mais nous avons trouvé un reliquat de 2003, 2004, 2005, 2006, des diplômes non donnés. Donc là, c'est un passif que nous sommes en train de régler. Donc, et qu'il se rassure, cette année, au retour des inspecteurs, il aura son diplôme.
Ben voilà, nous terminons avec Arnold qui est ici à Kinshasa. Bonjour. Arnold, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, je suis en ligne, bonjour, oui.
Oui, Arnold, dans une minute, quelles sont vos propositions pour terminer cette émission par rapport à la modification du système éducatif?
C'est dommage que je sois le dernier intervenant. Voilà, je voudrais profiter de la présence de ce monsieur le ministre, voilà. Je voudrais dire ceci. Je passe directement aux propositions. Il faut que le gouvernement ait le courage de supprimer la prise en charge des enseignants par les parents. C'est un système suicidaire. Le ministre a parlé du conseil de gestion, mais ça ne fonctionne pas. Ce conseil ne fonctionne pas normalement. Les chefs d'établissement ont confisqué justement ce système-là. Donc, moi, je pense que la prise en charge des enseignants par les parents doit être systématiquement supprimée parce que c'est suicidaire. Et puis, vous voyez, il y a une anarchie qui règne dans la fixation des frais. Pour le moment, le ministre peut me dire qui fixe les frais, qui a le pouvoir de fixer les frais des scolaires.
Voilà,
est-ce l'église, est-ce le gouverneur, est-ce le chef du quartier? Parce que maintenant, nous avons l'impression que tout le monde se réveille le matin, il fixe les frais.
Merci Arnaud.
C'est une anarchie de 180 dollars à 250 dollars à l'école secondaire. Vous imaginez, c'est plus que même à l'université.
Voilà, merci Arnaud. On vous a suivi. Une question précise, qui fixe les frais? C'est comme aussi l'inquiétude par rapport aux frais de l'examen d'État. Il y a des écoles qui ont demandé 22 dollars plus 12 000 francs, les écoles privées, les parents aussi s'inquiètent. Combien faudrait-il payer pour les examens d'État qui fixent les frais, monsieur le ministre, et toutes les autres préoccupations des auditeurs parce qu'on est en train de terminer l'émission.
Merci beaucoup. Lui, mais ça, c'est ignorer la loi. C'est ça. Donc, quand les gouverneurs de province, celui qui fixe, par exemple, les frais en ce qui concerne la passation de l'examen d'État, son arrêté est publié, que les parents se renseignent. Qu'est-ce que le gouverneur a fixé comme frais pour ceux de Kinshasa? Et chaque province, le gouverneur fixe les frais. Mais qui paye ça? Pourquoi on regarde ailleurs alors qu'ils peuvent facilement se demander, poser la question, qu'est-ce que le gouverneur a fixé comme frais et payer ça, c'est tout. C'est tout. Pourquoi ils vont chercher, pourquoi un enfant qui vient, qui dit non, j'ai déjà vu des cas où un parent m'appelle pour me dire qu'il y a son enfant qui est en train de lui dire qu'on a demandé X frais. Je lui dis que c'est pas possible de vérifier. Effectivement, c'était l'enfant qui trompait. Parce qu'il n'y a pas un contact direct entre l'école et les parents. Et j'insiste, il faut que le parent ait un contact direct avec l'école. Et s'il arrive régulièrement à l'école, il se rendra compte qu'il peut arriver à l'école. Il dit qu'est-ce que le gouverneur a fait comme ça. C'est l'arrêté public. Il est publié par voie de presse. Il se renseigne et on lui dira que c'est au sens. Voilà ce que je peux dire en ce qui concerne la fixation de frais. Même celui qui parle de la confiscation par le chef d'établissement de du fonctionnement du conseil de gestion, c'est pas possible. Il faut qu'il doit se soulever contre ça. Il doit aller, il doit nous écrire pour dire que le conseil de gestion d'appel école ne fonctionne pas. Il écrit au sous-prophète, il écrit au prophète, on verra qu'est-ce qu'il faut faire pour cette école. Et il ne peut pas rester. La démocratie, c'est aussi la participation. Et si vous ne participez pas, comment vous pouvez être victime de ce qui ne vous concerne pas? Il faut participer, il faut aller à l'école où se peut étudier l'enfant et faire fonctionner les structures qui sont.
Voilà, et comme on est en train de terminer par rapport à tout ce que nous avons dit aujourd'hui, qu'est-ce que les gens peuvent espérer 50 ans après par rapport à notre système de l'éducation?
D'ici là, un beau cadeau sera la promulgation de la loi. La stratégie existe déjà et nous allons tous nous mettre ensemble parce que une fois que cette loi sort, il y a effectivement la réalisation de notre programme. Nous pensons mettre à la disposition du public un programme qui peut aider le Congo à se relancer comme le président de la République a demandé, la reconstruction et le développement de la République démocratique du Congo. Ouais. C'est vrai que pour tout ça, il faut un budget. Et je crois qu'il y a...
Merci, monsieur le ministre. Nous vous disons merci. Nous nous excusons auprès des auditeurs pour le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire qui vient d'avoir une réunion urgente. Il est intervenu régulièrement dans notre émission, mais malheureusement, il a été pris dans une occupation urgente, ce qui n'a pas permis que nous puissions l'avoir dans cette émission qui se termine par là. On se retrouve demain pour parler du travail des défenseurs des droits de l'homme en RTC. Comment appréciez-vous leur travail? Réagissez à pa@radiookapi.net. Monsieur le ministre, nous vous disons merci. Merci à tous les auditeurs et bonne journée en compagnie de Radio-Canada.